Moi, c'était une question, en fait, précision, j'ai peut-être pas suivi, on est jeudi, on est un peu fatigué, j'ai peut-être lâché des choses, mais par rapport à votre tableau,
oui.
Celui-ci, pardon. Je m'interrogeais pour savoir, en fait, quels moyens vous mettez en place pour ajuster les pratiques de communication et de travail avec, justement, ce public différent. Ok, donc par rapport à ce schéma-ci, donc les actions éducatives familiales, vous notez un moment dans un cadre... Ils ajustent leurs pratiques de communication et de travail. Et moi, je voulais savoir concrètement quel dispositif d'apprentissage vous mettez en place, de formation.
Alors, je reviens sur cette... parce qu'il faut savoir que cette démarche-là est aujourd'hui... alors, le ministère de l'Éducation nationale s'en est saisi souhaite en généraliser le déploiement. La première chose qu'on a dit à la DGESCO, à nos interlocuteurs sur cette question-là, c'est bien le point sur lequel j'insistais, c'est que le premier point, c'est que les acteurs qui interviennent sur ces champs-là, qu'ils soient des enseignants, qu'ils soient des travailleurs sociaux, qu'ils soient tous ceux qui interviennent sur le champ qui est celui voilà, de la réussite éducative, si on veut utiliser un terme générique, puissent être outillés et de façon à ce que ils puissent eux-mêmes réinterroger leurs propres pratiques, voire même réinterroger leur propre posture professionnelle. Et là, je vais être très concret. Avec l'Académie de Créteil, ça fait quelques années qu'on travaille quand même sur ces questions-là. Ils sont un petit peu, non pas en pointe, mais c'est quand même une préoccupation qui est la leur. Et qui est porté quand même par, notamment par le correspondant académique illettriste de cette académie. Ils ont décidé il y a un an que, par exemple, et c'est très simple, parce que les modalités qui peuvent permettre, pour ça qu'en termes de moyens, il faut surtout s'appuyer sur ce qui existe. Ils ont dit on va commencer dans notre académie tous les temps de concertation, toutes les réunions organisées dans le cadre des bassins d'emploi, toutes les conférences pédagogiques, hein, je n'ai pas forcément en tête toutes les terminologies, par une sensibilisation à travers les 4 ou 5 diapos que je vous ai présentés au début. Prendre conscience qu'il y a dans ce pays un certain nombre de personnes qui sont dans une difficulté particulière par rapport à la culture scolaire du fait de leur relation particulière avec l'école. Et si, justement, un certain nombre de personnes, après, ajustent leurs pratiques, c'est parce qu'elles ont d'abord, par rapport à leur propre posture sur la question de la communication avec l'extérieur de l'école, elles ont ajusté leurs propres pratiques. Et on a travaillé avec des enseignantes donc sur tous les différents lieux où on a expérimenté cette manière d'agir. Et la première chose qu'elles disent lorsqu'elles reviennent sur leur pratique, je pense notamment aux deux directrices de l'école, des deux écoles maternelles qui étaient impliquées dans notre expérimentation dans le Morvan, à Château-Chinon, elles disent que simplement le fait d'avoir pris conscience que dans leur classe, il y a peut-être 3, 4, 5, 6, 7 gamins dont les parents sont dans ces difficultés-là, et que ce sont peut-être justement ceux dont elle disait auparavant, on les voit jamais, pourquoi ils viennent pas, etc., etc., avec tous les clichés qui peuvent être véhiculés, elles ont changé de façon très, très concrète, très pragmatique, leur façon de communiquer avec les parents. Elles expliquent, et elles ont témoigné lors du séminaire qui a été organisé par la DGESCO sur ces questions-là, elles expliquent que maintenant, elles utilisent plus volontiers d'autres moyens de communication, ou lorsqu'elles réussissent à faire venir dans leur classe tous les parents, parce que c'est quand même quelque chose que elles font attention dans la façon qu'elles ont d'expliquer un certain nombre de choses. Donc cet ajustement des pratiques, il doit être... c'est pour ça que nous, on insiste toujours sur cette question de la réinterrogation de l'existant, de la réinterrogation des postures professionnelles. Et tous ceux avec qui aujourd'hui on travaille sur ces questions-là sont des professionnels qui, sur ces questions-là, travaillent depuis très longtemps, parfois de façon extrêmement, même pour la plupart du temps, pertinente. Mais on n'imagine pas, nous, on est baigné au quotidien sur cette question Ça fait 12 ans que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme existe, et on est parfois, on s'auto-persuade que les chiffres que je vous ai donnés là sont entrés dans les esprits de tous et que pour tout le monde c'est évident. Mais non, il faut savoir qu'il y a un certain nombre de préfets de région qui ont toujours pas compris ça, qu'il y a un certain nombre de d'AZEN qui ne le savent pas non plus. Et donc c'est extrêmement important de commencer par le plus simple. C'est pour ça qu'au ministère de l'Éducation nationale, à la DGESCO, on leur dit que la première marche, c'est la sensibilisation des acteurs. Et simplement le fait de sensibiliser ceux qui interviennent sur ces questions-là, ça peut permettre... Après, on va bien au-delà. On a, avec nos partenaires, construit aussi des outils qui permettent de ne pas répondre à côté de la plaque. Au moment où, avec toutes les bonnes intentions qu'on a, on a parlé de la mallette des parents, je ne sais pas s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui la connaissent, mais c'est vrai qu'à un moment donné, la mallette des parents, ça a pu susciter un certain nombre d'interrogations. On a été associés à un moment donné, quand l'expérimentation a été lancée à l'Académie de Créteil, si je vous dirai pourquoi.
Je voudrais revenir sur le tableau que tu as présenté à un moment donné, sur le taux d'illettrisme par rapport aux tranches d'âge. En montrant que plus la tranche d'âge est avancée, plus le taux est fort. Je pense qu'il faut aussi le comprendre en expliquant qu'il y a aussi des gens qui peuvent désapprendre. Ouais. Il y a des gens qui ont su lire et écrire techniquement au moment où ils sont sortis de l'école, et puis qui n'ont pas trouvé la façon de rendre ça opérationnel pour dans leur vie qui a suivi. Et ça interroge vraiment l'école. Est-ce que les savoirs que les enfants, les apprentissages qu'ils font à l'école, ça leur donne l'autonomie qui leur permet d'évoluer, de continuer à apprendre tout au long de la vie, de continuer à s'adapter aux changements qui sont quand même assez fréquents. Donc ça, je pense que c'est important parce que ça lie le sens des apprentissages. C'est pas simplement... Et nous, on connaît la question de lutte contre l'illettrisme, comme tu disais, depuis longtemps. Oui. Et on a toujours été énervés quand on nous présentait ça comme le fait des gens ne savent pas lire et écrire, on va leur apprendre à lire et écrire. Comme dit Bernadette, le but, c'est pas d'apprendre à lire et écrire.
C'est pas forcément
apprendre
ça.
À lire et écrire, c'est un moyen de participer comme personne, comme citoyen dans un pays, d'agir. Pour ATD Quart-Monde, le gros levier qui a fait que des gens se sont engagés avec nous et ont appris des choses, c'est parce qu'on les a sollicités pour agir contre l'exclusion en France. On a pensé qu'on n'arriverait pas à faire reculer la misère à l'exclusion si ce n'était pas eux les premiers, si ce n'était pas de leurs idées à eux qu'on partait en premier. Donc ça me paraît vraiment important. Il y a un autre petit point que je voudrais dire. Tu disais, le fait que les enfants entrent à l'école, c'est une occasion exceptionnelle pour que les parents se mettent à réapprendre. Ça va dans les deux sens. Si les parents se mettent à réapprendre, ça booste les gamins à l'école.
On est dans un cercle vertueux. Là.
On n'utilise pas, c'est ça, il y a une double autorisation. On a parlé de ça, on a même parlé de triple autorisation. Mais des enfants qui voient leurs parents se remettre dans un processus d'apprentissage, c'est un grand encouragement aussi pour eux. Et l'école va avoir un travail facilité aussi grâce à ça.
Oui. Alors, moi, c'est un peu une question... une remarque et une question en même temps. Moi, la sensation que j'ai, je suis enseignant sur un territoire à Rieux-la-Pape, là, dans la banlieue de Lyon, et je travaille un petit peu avec un groupe de parentalité aussi par ailleurs. J'ai travaillé un peu avec le PRE. Il y a beaucoup de structures qui, j'ai l'impression, sont fédérées à un certain niveau de décision, peut-être départementale, peut-être régionale, ou voire même nationale. Donc, je sens qu'il y a une espèce de cohésion qui est pensée quelque part. Mais sur le territoire, moi, mon ressenti, c'est vraiment mon ressenti à moi, c'est que c'est très éclaté. Donc il y a le PRE, il y a le club des jeunes, mais évidemment il y a les écoles, il y a les centres sociaux qui font des actions de parentalité, qui font aussi des actions d'apprentissage du français pour les nouveaux arrivants. Il y a un conseil périscolaire sur la ville où, par exemple, tout le monde n'est pas représenté. Il y a le CEL, enfin, j'en passe. Et le sentiment que j'ai, c'est qu'il y a un grand éclatement au niveau vraiment du terrain. Et que quand on met un petit peu le nez là-dedans, ce qui est mon cas en ce moment, tout le monde ne se connaît pas. Il y a un manque de cohésion. Alors qu'on a l'impression qu'effectivement, et comme vous le dites vous-même, il y a des réunions nationales ou autres, il y a une certaine cohésion, il y a une certaine pensée à un certain niveau. Donc ça, c'était un premier point. Et deuxième point, par exemple, ouvrir l'école aux parents. Moi, c'est un dispositif que j'ai regardé avec intérêt et tout. J'ai mis un petit peu aussi le nez dedans pour voir comment pouvoir s'en saisir. Et là, à l'heure actuelle, j'ai renoncé. Et j'ai une vraie question par rapport à ça. Comment on accède à ce genre de dispositif? J'ai passé pourtant des coups de téléphone et autres, j'ai quand même un petit peu regardé en profondeur, pour l'instant je suis en échec.
Bonjour, Isabelle Bordet de Basse-Normandie, j'ai l'occasion de travailler régulièrement avec votre chargée de mission, en particulier sur la mise en place et le soutien aux AEF qu'on est en train d'essayer de construire. Moi, ce que j'avais envie de vous dire, j'étais là le 9 janvier, donc effectivement, voilà, j'ai entendu beaucoup de choses que vous avez redit là, mais ce qui m'avait semblé le 9 janvier, ce qui m'intéresse, moi, dans la dynamique des AEF, c'est effectivement cette intrication avec l'école, qui était nette dans le témoignage des collègues de Château-Chinon, et qui m'intéresse effectivement sur comment, de mon lieu à moi, formatrice de l'éducation nationale, comment ça peut faire bouger les lignes de notre côté. Enfin, je veux dire, du côté des, enfin, de cette intrication, pas seulement de notre côté, mais je veux dire de cette rencontre, hein, qui va faire qu'à un moment donné, la question n'est pas de stigmatiser des parents en disant « ceux-là, c'est les bons illettrés, on va les envoyer aux AEF », parce que ouais. Moi, je me suis battue là-dessus avec les chefs d'établissement, ouais. Parce qu'ils voulaient que je forme leurs collègues à regarder qui était illettré, qui l'était pas. J'ai dit « ah, ça, sûrement pas, niette ». Par contre, après, qu'il y ait un travail avec les associations de quartier qui proposent à des gens avec qui, etc., etc., oui, parce qu'à un moment donné, voilà, c'est important que le public soit sterné, mais pour autant, former des enseignants à la compréhension de l'illettrisme en trouvant les bons illettrés, les mauvais illettrés, là, j'étais inquiète. Voilà, donc c'est cet aspect-là, moi, des AEF qui m'intéresse. Puis juste pour répondre aux collègues, parce qu'il se trouve que je travaille avec un CASNAV aussi, les dispositifs ouvrir l'école aux parents, nous, on a été intégrés dans le dispositif parce que le Calvados a été reconnu comme un des départements porteurs de ce dispositif-là. Et donc, mon collègue du CASNAV a monté deux dispositifs sur la ville de Caen et un sur l'Orne parce qu'on a demandé à étendre. Mais je ne sais pas pourquoi, c'est le ministère, il y a eu une liste de départements. Comment ils ont été choisis, en fonction de quel indicateur, j'en sais rien. Donc nous, c'est le CASNAV qui a été en charge de ce dossier-là, qui est particulièrement intéressant d'ailleurs. Et c'est vrai que le dispositif AEF est pas loin, même si la cible de parents n'est pas la même. Et on a vu du boulot vraiment intéressant avec Ouvrir l'école aux parents, qui est un travail vers les parents d'origine étrangère sur la question d'apprendre la langue française. Alors, il pouvait y avoir de l'alphabétisation ou pas, hein, mais en général, c'était plutôt apprendre la langue française pour des gens qui étaient des fois pas très bien scolarisés dans leur langue d'origine, mais pour autant qui avaient déjà un parcours scolaire. Voilà, donc je voulais juste intervenir sur ce lien qui était peut-être... Bon, la FEV, etc., c'est intéressant, mais ça reste autour de l'école. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est quand ça rentre dans l'école. Voilà.
Alors, ouvrir l'école aux parents pour l'intégration... Kira Chikawi aurait pu être là aujourd'hui, mais c'est pas quoi dans notre stage, mais nous ne l'avons pas mobilisé. Dans le quartier de la Duchère, le collège Scholcher a ouvert, a s'est emparé de ce dispositif, ouvrir l'école des parents pour l'intégration. Et ils ont créé à l'intérieur du collège un espace parent, un lieu d'accueil parent, où non seulement ils sont allés plus loin que d'apprendre le français langue étrangère, c'est-à-dire que les parents peuvent aussi apprendre l'anglais, peuvent aussi apprendre l'allemand, l'espagnol, c'est-à-dire que les enseignants du collège se sont mobilisés pour qu'il y ait des apprentissages, mais il y a aussi une photographe professionnelle qui vient et qui travaille sur le territoire, le quartier, à travers les photos, etc. Donc, il y a des propositions institutionnelles, des dispositifs, et puis comment la manière dont les acteurs s'en emparent avec les gens du quartier. Alors, ce qui est intéressant encore plus dans cet espace parents, c'est que c'est un lieu pour les parents, pas que pour les parents du collège, pour les parents du quartier. C'est-à-dire que son enfant a pu être scolarisé au collège, eh ben, on peut encore continuer à aller dans l'espace parent. Où son enfant est à l'école primaire, on peut quand même aller au collège. Et puis, et le fait que ce lieu, avec cette diversité d'activités, dont certains enseignants s'en emparent, hein, et qui vont faire de la formation pour adultes, autour d'actions et d'apprentissage, la démarche se met finalement en place sur un territoire. Voilà. Alors, Kéra aurait mieux expliqué ça pour eux que moi, mais...
C'est juste parce que ça complète ce que dit Marie-Odile, parce que on a une collègue qui a été sur ce lieu d'accueil parents à Scholcher, donc à la Duchère, lundi dernier, et qui, voilà, et elle a assisté à une réunion des parents, et ils en sont, tous ces parents, à réfléchir comment ils pourraient conduire une recherche sur comment mieux aider leurs enfants à réussir à l'école. Voilà, ils en sont à ce stade-là et ils ont envie de faire une recherche et ils s'orientent peut-être vers les universités populaires de parents. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ces démarches-là, elles peuvent aller loin.
Donc, Michel Jean-Lavaux, donc moi je suis sociologue et colporteur interrégional des 10 mots de la semaine de la langue française, donc qui ouvre assez large. Donc en fait, avec Zéro de conduite, l'ICEM, l'appel de Bobigny, je suis moi à Défense Enfants International France. Et donc avec Frédéric Jésus qui interviendra ici jeudi, nous pensons en fait que l'aide à la parentalité, ça vaudrait le coup de le déplacer un peu en posant la question de la condition parentale, c'est-à-dire qui nous sortirait d'une forme, me semble-t-il, sans doute utile de discrimination positive, mais on en connaît les limites.
Quelques minutes. Alors c'est vrai que Bruno, sur la question du... Il nous faudrait beaucoup de temps pour commenter les chiffres, parce que comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on a évidemment le triomphe modeste, et notamment sur cette question des taux par tranche d'âge-là. Et si j'avais... si on avait le temps, mais on pourra peut-être, si je transfère... Vous pourrez le trouver sur notre site, la plaquette 4 pages qu'on a fait sur ces chiffres-là, et puis aller surtout faire une comparaison avec ce que dit l'INSEE. Parce qu'il faut savoir que le travail qu'a fait l'INSEE, c'est pas sur la question de l'illettrisme, c'est sur la question des adultes en difficulté. Et c'est vrai que par contre, c'est pour ça que je parle de triomphe modeste, si on prend la tranche d'âge des jeunes, des 18-25 ans, alors certes, on peut... Parce que pour nous, c'est important aussi d'une façon communicante de dire attention, évitons les raccourcis rapides sur le fait que les jeunes sont beaucoup plus touchés, sont bien moins bons que leurs aînés. Mais on sait aussi que les jeunes en difficulté, et dans le en difficulté, nous on va aller chercher nos petits, ceux qui sont en situation d'illettrisme, mais dans le en difficulté, il y a ceux qui sont dans une situation de fragilité. Alors qui est parfois un petit peu difficile à définir, mais on va retrouver nos 175 000 jeunes qui sortent du système scolaire sans qualification. On sait que ceux-ci sont justement particulièrement fragiles au moment où ils sortent de la scolarité. Et sur cette période du 17-25 ans, où parfois il y en a beaucoup qui sont même en dehors de tous les dispositifs, de tous les systèmes, qui sont ceux qui n'utilisent pas, y compris les recours auxquels ils ont droit. Donc on est beaucoup plus inquiet, comme tu le disais, sur cette question de si rien n'est fait sur cette période-là, sur ces périodes-là, on sera dans une perspective qu'on peut appeler le désapprendre, quoi, en fait, hein, quand et ceux qui sont aujourd'hui simplement, d'après les degrés que nous on a définis, considérés comme en difficulté importante et non pas en difficulté grave, qui font qu'on les rentre dans la catégorie illettrisme, peut-être quand ils auront 35 ans seront en situation d'illettrisme, et surtout si les activités qui leur sont proposées dans le cadre professionnel, social et citoyen ne leur permettent pas d'ancrer durablement les quelques apprentissages dont ils ont pu, qu'ils ont pu emmagasiner et sur lesquels ils ont pu constituer un socle sur cette question-là. Après, il y avait la question l'éternelle question que que vous évoquiez du millefeuille, hein, du millefeuille, la difficulté avec laquelle on a à se retrouver dans le maquis, on va appeler ça dans le maquis de la réussite éducative, du soutien à la parentalité, de l'accompagnement à la scolarité, j'en passe des meilleurs et des pires. C'est vrai que c'est récurrent. Le constat qu'on fait, nous, quand même, parce que ça fait depuis toujours qu'on dit que c'est particulièrement complexe sur un quartier quelquefois de s'y retrouver, quand plusieurs acteurs proposent parfois sans même se connaître, parce qu'on est aussi quelquefois sur des clivages culturels, idéologiques, y compris même parfois politiques, qui font que sur un même quartier, que l'action relève de la maison de quartier, de l'amicale laïque ou du centre social. Je dis ça parce que sur un territoire que je connais très bien, on a sur certains quartiers, sur le même pâté d'immeubles, les trois. Et on sait que parfois les trois proposent de façon complètement échevelée des actions que les uns et les autres appellent tous de soutien à la parentalité ou d'accompagnement à la scolarité, et qui pour les uns et les autres se résument à de l'aide au devoir ou en d'autres actions qui n'ont rien à voir évidemment avec ce qu'on pourrait appeler le soutien à la parentalité. Par contre, le constat qu'on fait, je pense notamment au travail qu'on est en train de faire sur avec la PFE sur la ville de Romans, le constat qu'on fait, c'est quand il y a un pilotage installé dans le cadre notamment d'un projet éducatif local ou avec une animation forte, ancienne, portée souvent par l'éducation nationale, qui peut être ce qui relève de la compétence, par exemple, aujourd'hui, des réseaux de réussite scolaire, avec cette posture professionnelle qu'ont... j'utilise encore l'ancien terme, les anciens coordonnateurs ZEP, qui sont sur cette posture du travail ensemble, qui permet justement de réunir, pour agir, des acteurs, chacun à la place qui est la leur... Mais à condition que chacun reste à sa place et en acceptant que la place de l'un est aussi importante que celle de l'autre, et évidemment sans oublier, comme vous le soulignez à chaque fois, que il y a très souvent quand même dans ces dispositifs-là et dans cette dynamique-là, les grands oubliés, c'est-à-dire ceux qui sont quand même les premiers concernés par les actions et dont on a l'habitude quand même de parler souvent en leur nom. Donc je crois que l'une des, non pas des solutions, mais l'un des ancrages forts, c'est pour ça que nous on travaille beaucoup, par exemple avec les acteurs de l'ANDEV, hein, la direction d'éducation des villes, ou avec le réseau de la réussite avec le réseau des villes éducatrices, où on sait qu'à partir du moment où on a un cadre de pilotage, la ville de Lyon est assez bien placée sur ces questions-là, la ville de Rennes aussi, on sait que il y a des possibilités qui existent beaucoup plus facilement qu'ailleurs. Alors quand on parle de ouvrir l'école aux parents, et puis je fais le lien avec la question autour du FLE, je voudrais pas avoir donné l'impression, et c'est important, que même si nous on fait cette distinction qui peut paraître finalement contradictoire par rapport à ce que je dis souvent sur le fait qu'il faut décloisonner, et que nous on cloisonne et qu'on cherche à avoir nos publics qui seraient que ceux qui sont en situation d'illettrisme, ça peut paraître contradictoire. Ouvrir l'école aux parents, c'est un dispositif éducation nationale, direction de l'accueil, de l'intégration, hein, de ministère de l'Intérieur, la DAIC, et qui s'adresse aux personnes qui relèvent du CAI pour la plupart d'entre elles. Nous, ce qu'on dit, c'est que les actions qui peuvent être proposées à des personnes qui relèvent du FLE, de l'ALFA ou de toute autre situation, sont aussi des actions qui participent à la prévention de l'illettrisme, dans la mesure où les enfants de ces adultes-là sont scolarisés dans notre pays. On a travaillé dans un quartier de Marseille, qui est le quartier de Calixté, où on a une forte population comorienne, alors qu'il y a en plus... ont cette particularité-là, c'est d'avoir un passeport français, mais qu'ils ne parlent absolument pas le français, parce que beaucoup, beaucoup d'entre elles, ces mamans, ne parlent que le chimaoré, qui est leur langue maternelle, leur langue, la langue qu'elles utilisent. Et c'est vrai que, mais comme elles sont avec un passeport français, elles ne bénéficient pas du dispositif ouvrir l'école aux parents. Donc il faut bien pouvoir, à ces personnes-là, leur proposer des actions qui, à ce moment-là, relèvent beaucoup plus. Mais comment on le fait à Mayotte ? À Mayotte, on a un énorme dispositif qui s'appelle l'école des parents, où les situations d'apprentissage qui sont proposées aux mamans et aux papas, quelques-uns, sont des situations d'apprentissage pour apprendre le français, qui pour eux est une langue étrangère, qui sont connectées avec la scolarité de leurs enfants. Donc évidemment qu'il faut absolument s'appuyer sur, et c'est ce que nous disons nous, sur tout ce qui existe et qui peut permettre de faciliter en fait l'action de chacun. Il y avait la...
Moi, je voulais resituer quand même. Je voulais rebondir sur ce que tu venais de dire, qui synthétise bien aussi notre travail. Bon, tu l'as dit, mais ça a été dit au cours du stage. C'est l'idée quand même qu'il faut travailler collectivement, chacun à sa place et chacun dans son rôle, que la place des uns est aussi importante que la place des autres. Et puis, Sylvie Chevillard l'a un peu théorisé, mais ça a traversé tous les discours, que les parents ne sont pas des objets de travail, ce sont des sujets. Et je crois que ça, c'est, tu l'as repris, nos collègues Benoît et Bruno aussi l'ont dit, tous ceux qui sont intervenus, qu'on a tendance à vouloir monter des dispositifs, des articulations, etc. Mais que bah, finalement, ça marche quand on le fait avec les gens qui sont concernés. Quoi.
Je suis chargée de formation continue à l'inspection académique et je fais intervenir la plateforme Alecta, puisque c'est elle le support de ces actions-là à Château-Chinon, dans la formation des directeurs tous les ans.